RFI. Grand reportage, Laurence Adou.
La Turquie se rend aux urnes ce dimanche pour renouveler son parlement, dominé depuis 13 ans par le parti de la justice et du développement de Tayyip Erdogan, qui est devenu président de la République en août dernier. Un vote à un seul tour qui s'annonce délicat pour le parti au pouvoir, menacé pour la première fois de perdre le soutien d'une partie de ses électeurs, alors qu'il avait comptabilisé près de 50% des voix lors de la dernière législative, c'était en 2011. Cette élection se déroulera donc dans un contexte particulièrement tendu, avec un président qui, bien que chef de l'État, est donc au-dessus des partis, multiplie les meetings et fait feu de tout bois contre ses détracteurs. Un reportage signé Jérôme Bastion que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Istanbul. 30 mai, le président Erdogan se présente en maître de cérémonie devant quelques 500 000 partisans pour célébrer, dans une mise en scène grandiose, le 562e anniversaire de la conquête d'Istanbul par le sultan ottoman Mehmet II. Il prie avec la foule, invoque copieusement Dieu et compare l'élection législative du 7 juin à une nouvelle conquête, lui qui espère, grâce à ce scrutin, renforcer son pouvoir en instaurant un régime présidentiel fort. Et il en profite pour vilipender tous ceux qui mettent en doute son projet ou critiquent sa politique.
Chers amis, il y a en Amérique un torchon qui s'appelle New York Times. Ce journal, comme plusieurs fois auparavant, a publié ces jours-ci un article à notre sujet. Et qu'est-ce que ça dit ? Nuages noirs sur la Turquie. Ce journal, connu pour sa proximité avec le lobby arménien, est également de mèche depuis quelque temps avec le prédicateur Gulen, établi en Pennsylvanie. Et puis il y a ceux qui, sans gêne ni vergogne, se livrent à des spéculations sur l'aide que nous allons livrer aux brigades turkmènes de Syrie. C'est de l'espionnage, c'est de la bassesse, mais ils paieront pour cela.
Cette posture de fermeté n'est pas pour déplaire à ses supporters qui restent inconditionnels.
Est-ce que vous soutenez l'AKP ou M. Erdogan ?
Le président Erdogan avant tout. D'ailleurs, le parti, c'est lui. Donc en fait, on soutient les deux.
Qu'est-ce que vous aimez chez M. Erdogan ?
Recep Tayyip Erdogan a fait de la Turquie un pays entièrement nouveau. Il n'y a pas dans le monde un meilleur Premier ministre ou un meilleur président que M. Erdogan.
Pourquoi est-ce que vous aimez M. Erdogan ? Qu'est-ce que vous aimez en lui ?
Je l'apprécie surtout pour les libertés qu'il nous a apportées, plus que pour ses qualités personnelles ou sa propre personnalité. Si on peut définir d'une manière générale ce qu'il a donné au pays comme liberté, je peux dire que nous jouissons aujourd'hui d'une liberté totale. D'ailleurs, je ne trouve pas qu'il soit autoritaire. Disons qu'il exprime ses positions et qu'il les assume pleinement. Mais même si certains disent qu'il est autoritaire, ce n'est pas mon avis.
Moi, je le soutiens pour tout ce qu'il a fait pour le pays, les investissements, les services à la population. En tout point de vue, il a développé le pays. Il l'a amené dans l'ère moderne. À bien des égards, c'est un leader qui a fait avancer son pays.
Comment vous voyez M. Erdogan ?
Je le définirai avant tout comme un père. Parce que, comment dire, c'est un père. Tant pour les pauvres que pour les riches. Pour les orphelins, pour tout le monde. Oui, c'est un père.
Est-ce que vous souhaitez que M. Erdogan soit président d'un régime présidentiel fort ?
Je ne pense pas, bien que je soutienne l'AKP, que le pays soit prêt pour un régime présidentiel. Dans l'avenir, oui, je le souhaite, mais pour l'instant, les conditions ne sont pas encore réunies.
Est-ce que vous pouvez imaginer un AKP ou un pays sans M. Erdogan ?
Impossible, jamais, jamais, jamais.
Pas pour l'instant, non, pas pour l'instant.
Les sympathisants ne semblent guère envahis par le doute, mais les déçus de l'AKP sont de moins en moins rares, comme Naci, 49 ans.
Moi, avant, je votais pour l'AKP, mais maintenant j'hésite car ils ont trempé dans trop d'affaires. L'AKP va gagner et ce qu'on attend, c'est un pouvoir plus tranquille. Espérons que le président modérera ses manières avec un ton plus calme, plus tempéré. Ça devrait mieux se passer.
De gros nuages noirs planent donc bien sur la Turquie rêvée par M. Erdogan, à qui les sondages prédisent un sérieux coup d'arrêt. Quand il donne à ses sympathisants la date du 7 juin pour la nouvelle conquête, comme première pierre de la nouvelle Turquie, qui serait, selon ses propres termes, une restauration de l'Empire ottoman, M. Erdogan est probablement le seul à y croire encore. C'est sans doute la raison pour laquelle cette campagne électorale a été si acrimonieuse et même parfois violente, avec des dizaines d'agressions et d'attentats contre les Kurdes. Erol Uskora est directeur de publication du défunt magazine Idea Politica, explique l'aspect crucial de ce scrutin pour Recep Tayyip Erdogan, scrutin dont l'ambiance rappelle d'ailleurs les prémices du coup d'État de 1980.
C'était un peu un qui tout double. On a lu dans la presse le terme de référendum pour un changement de constitution et donc de régime. C'était son qui tout double, cette élection. C'est pour ça que l'ambiance de cette campagne électorale était si tendue, à votre avis?
Dans les années 70, il y avait beaucoup de tensions à cause du gouvernement de coalition très nationaliste et très fascisant. Je me souviens de la même chose en 77 et 79. Mais là, c'est encore plus grave parce que ça peut être la fin de la République laïque à la fin de ces élections législatives. La Turquie ne peut pas supporter ce changement de régime qui peut glisser vers une sorte de régime islamique sunnite. Et c'est pour cela que les électeurs sont très tendus, surtout dans les grandes villes, ceux qui ont fait la révolte de Gezi il y a 2 ans. Donc c'est la dernière étape pour sauver les acquis d'une république laïque.
Quand vous parlez de changement de régime, c'est le grand projet de M. Erdogan d'instaurer un régime présidentiel fort, qui ferait de lui un président fort. Est-ce qu'il y a encore une chance que ça passe ou pas?
Ça va être un régime présidentiel, et s'il arrive à le réaliser, c'est-à-dire à la manière des pays de l'Amérique latine, ça va être une sorte de dictature personnelle. Je ne crois pas, parce que il y a la montée du parti pro-kurde qui est devenu un parti national, au niveau national, donc il peut y avoir une sorte de raz-de-marée concernant ce parti. Il peut obtenir les 15% des voix, il a la possibilité. Si ce parti HDP, le parti le Parti démocratique des peuples réussit ce score, le parti islamiste ne peut pas obtenir la majorité absolue au Parlement et donc le projet d'Erdogan va devenir caduc.
Ce même 30 mai, non loin du grand show de M. Erdogan, se tenait le meeting du Parti démocratique des peuples, le HDP pro-kurde, lui aussi devant une assistance record de près de 200 000 personnes.
Les sentiments d'exclusion, de vengeance et de haine qu'ils ont alimentés dans la population vont bientôt disparaître.
Son co-président, Selahattin Demirtas, n'affiche aucun doute sur l'origine de ces violences qu'il qualifie de provocations ouvertes.
C'est l'AKP qui incite et provoque ces violences. Le gouvernement cherche à démontrer que notre parti est synonyme d'insécurité et il crée les conditions de ces attaques parce qu'il pense en retirer des dividendes électoraux.
Je sais que nous allons réussir, nous avons beaucoup d'espoir. Et cette fois, on va gagner. Si on ne nous vole pas la victoire, ça va passer.
Si on gagne, c'est bien sûr très important pour les Kurdes, dont le parti devrait pour la première fois passer le barrage. C'est en tout cas notre espoir.
Pour la population kurde, l'espoir est donc grand d'une représentation parlementaire avec à la clé la reconnaissance constitutionnelle de son identité. Et surtout, l'enjeu est la poursuite, ou plutôt la reprise, des négociations de paix entre Ankara et la rébellion armée du PKK après plus de 30 ans de conflit. Le coprésident du HDP, Selahattin Demirtas.
C'est après le scrutin que l'on verra ce que devient le processus de paix qui est gelé. Le gouvernement a clairement dit qu'il ne bougerait pas. En fonction du résultat des élections, on pourra se prononcer. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. En tout cas, quel que soit le verdict des urnes, nous ne renoncerons pas à la recherche de la paix.
Le HDP, avec qui le gouvernement négociait il n'y a pas si longtemps encore un accord de paix pour désarmer la rébellion, est donc devenu l'ennemi intime du parti au pouvoir, parce que son entrée au Parlement menacerait les ambitions du président Erdogan. C'est donc dans le sud-est, à majorité kurde, à 2 heures d'avion d'Istanbul et à l'autre bout du pays, qu'il faut aller prendre le pouls de cette paix fragile et chercher les raisons de la montée en puissance de ce parti qui bouscule le jeu politique.
Ramadan.
candidat Mithat Sancar visite la circonscription de Derik, un petit village accroché dans la montagne, qui vise 90 à 95% des voix pour le HDP à ce scrutin du 7 juin.
À Derik, notre objectif est de 90% de voix. Ici, nous espérons reléguer l'AKP sous le barrage des 10%.
Dans une vitrine, pendent des foulards aux couleurs jaunes, vertes et rouges, avec une main qui tient une pierre et deux doigts en forme de V, qui rappellent la défense de la ville kurde syrienne de Kobané contre les islamistes, présumés soutenus par Ankara.
C'est le drapeau de Kobané qui symbolise le peuple kurde, et ça, c'est le signe de la victoire.
La bataille de Kobané influencera-t-elle les électeurs, selon vous ?
Certainement, car nous avons eu des martyrs. Des Kurdes de Turquie sont morts en allant défendre leurs frères en Syrie. Ça compte pour les gens d'ici. Kobané est un facteur important. Ce que nous voulons, c'est que la région retrouve son calme.
Politologue de formation, le candidat Mithat Sancar s'emploie à convaincre les tribus des milices pro-gouvernementales que l'entrée du HDP au Parlement garantira la poursuite du processus de paix, ce à quoi la grande majorité des habitants de la région aspire. Apparemment, l'argument porte, car les chefs des tribus promettent qu'ils n'appelleront pas à voter pour l'AKP. C'est une évolution majeure, estime Mithat Sancar.
La résistance de Kobané non seulement a rapproché du HDP les Kurdes qui ne nous soutenaient pas avant, mais en plus, l'attitude du gouvernement les a éloignés de l'AKP. C'est pourquoi nous allons faire ici un score plus élevé que jamais.
Confirmée par la majorité des sondages, la percée du HDP et son entrée au Parlement ne semblent guère faire de doute. Mais les craintes portent maintenant sur la transparence du scrutin, explique Erol Skoral.
Il y a la peur aussi de la part des électeurs et des partis d'opposition qu'il peut y avoir vol de voix. Parce que souvent, ils trichent lorsqu'il y a les ouvertures des urnes. Donc c'est ça qui fait peur. Mais si les partis politiques contrôlent très bien, ce vol ne va pas être aussi grave qu'on ne le pense, mais il va voler quand même, ça on en est certain. S'il vole 2-3%, ça va, mais s'il vole aux alentours de 10% des voix, ça va être catastrophique et ça peut causer aussi une sorte de révolte le soir même des élections.
Mais ces craintes d'une élection volée, c'est assez nouveau en Turquie.
C'est très nouveau. Gagner 4 élections, c'est impossible. Lui, il a gagné déjà 3 en augmentant ses voix. C'est pas possible. Donc, il y a triche. En 2002, Erdogan, c'est-à-dire les islamistes, avaient obtenu 34%. Et en 2007, ça a monté à 47%. C'est anormal. Donc, depuis cette date-là, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais maintenant, là, on sait qu'il y a une triche. Donc, il y a des craintes énormes dans ce sens-là.
Si tu veux que ta voix compte, viens toi-même dépouiller les votes, dit ce clip, qui fait appel à des volontaires pour qu'ils surveillent le scrutin du 7 juin, présenté comme, je cite, « l'un des plus critiques de l'histoire de la Turquie ». L'association OY VETSI, que l'on pourrait traduire par « au-delà du bulletin de vote », a organisé plusieurs séminaires de formation pour éveiller les observateurs bénévoles au contrôle des bureaux de vote. Ils seront en tout 120 000 ce dimanche à suivre le scrutin dans quelques 45 provinces, soit plus de la moitié, choisies comme délicates, c'est-à-dire où l'écart entre les partis en lice s'annonce faible, donc où les manipulations sont plus faciles. Serjan Çelebi est porte-parole de l'association.
Notre but principal, c'est que le 8 juin, au lendemain du scrutin, on ait apporté notre pierre à la tenue d'une élection transparente, participative et démocratique.
Serjan Çelebi a mené plusieurs de ces formations où les bénévoles demandent quoi faire en cas de situation suspecte. Il leur rappelle que leur présence vise à limiter les risques de fraude, dont l'éventualité paraît bien réelle. La coordinatrice de OY VETSI, Müge Murat, explique comment est née l'idée d'une telle initiative citoyenne.
C'est en fait après les manifestations de Gezi que nous avons décidé de prolonger le mouvement citoyen en une organisation plus structurée pour canaliser les craintes des citoyens en une action concrète. Et depuis le scrutin du 30 mars 2014, nous avons voulu transformer les initiatives de la société civile en mettant en place cette plateforme. Quand les gens nous ont expliqué qu'ils étaient inquiets de certaines pratiques plus ou moins bien intentionnées autour des élections, on leur a dit « Eh bien, venez, surveillons tous ensemble les opérations de vote et montrons notre efficacité. Notre mot d'ordre, c'est non seulement il faut voter, mais il faut aussi s'occuper de ce qui se passe dans les urnes. »
Turquie, des législatives sous tension, un grand reportage de Jérôme Bastion, réalisation Suhail Khedi.
Oğlu Mehmet küçük, yerimi tutmaz. Oğlu Mehmet küçük, yerimi tutmaz. Cemalım, cemalım, aldın cemalı. Alganlar içinde kaldın cemalı. Cemalım, cemalım, aldın cemalı. Alganlar içinde kaldın cemalı. Örgütende giderken görmüşler, Örgütende çıkarken görmüşler. Kıratımı gidişinden bilmişler.
Jérôme Bastion, vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors tout d'abord cette question. Pourquoi est-ce que le président Erdogan est autant impliqué dans cette campagne ?
Eh bien Laurent, parce qu'il joue sa place en quelque sorte, ou plutôt son avenir. Certes, Monsieur Erdogan est élu depuis août dernier pour 5 ans, donc il exercera encore la magistrature suprême jusqu'à l'été 2009. Mais il a toujours dit qu'il n'entendait pas être un président qui inaugure les chrysanthèmes et que la Turquie avait besoin d'un président fort, d'un régime présidentiel à l'américaine taillé sur mesure pour lui. Or, il n'a pas réussi jusque-là, faute de majorité suffisante et de consensus au Parlement, à amender la Constitution ou à en proposer une nouvelle entièrement réécrite. Il compte donc sur une nouvelle majorité élargie, la majorité qualifiée des deux tiers pour pouvoir proposer cette réforme, ou à tout le moins des 3/5 pour pouvoir la soumettre à un référendum. Sinon, et surtout si le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, son parti, se retrouve en minorité à l'Assemblée, il perdra tous les pouvoirs qu'il s'était arrogé jusque-là et sera forcé d'occuper la fonction présidentielle symbolique qui est celle en vigueur en Turquie.
Alors Jérôme, on sent dans votre grand reportage qu'une certaine inquiétude a entouré la campagne et qu'elle est plus grande encore pour les lendemains du scrutin. Comment s'exprime-t-elle ? Qu'est-ce que l'on craint exactement ?
Inquiétude parce que le gouvernement a utilisé au cours de cette campagne un discours particulièrement violent contre ses opposants, accusé de comploter, je cite, contre lui, et a usé de la répression dans des proportions jamais vues jusque-là. Ce qui fait se demander ce qui pourrait bien se passer après le scrutin, que l'AKP gagne et sorte plus fort, ou qu'il perde et ne recourt éventuellement à des méthodes autres pour rester au pouvoir. Pour tout dire, ces craintes vont jusqu'à entrevoir l'éventualité, à terme, d'un coup d'état militaire, oui, dont l'option est parfois analysée maintenant par certains observateurs ou analystes. Dans les discussions en tout cas, dans la rue, dans les cafés, beaucoup de gens se disent ouvertement inquiets et souhaitent tourner la page, si ce n'est de l'AKP en tout cas, de ce scrutin à l'enjeu apparemment tellement vital pour M. Erdogan.
Ce sera le mot de la fin, grand reportage à écouter. 3210. Ce sera le mot de la fin, grand reportage à réécouter dans son intégralité sur RFI.fr. Jérôme Bastion. Merci beaucoup.
L'épopée des musiques noires. Longtemps.